Vous écoutez
RMC.
L'invité du jour.
Parce que vous allez tout comprendre à l'intelligence artificielle. Faut-il en avoir peur ou au contraire l'accompagner? Avec vous, Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin parce que vous êtes non seulement économiste, mais vous êtes aussi le président de la commission sur l'intelligence artificielle qui a rendu son rapport à Emmanuel Macron. Le président a rencontré tous les patrons du secteur de l'intelligence artificielle hier. Il se montre assez optimiste sur l'effet de l'intelligence artificielle sur notre économie. Est-ce qu'il a raison d'être optimiste? Est-ce qu'on peut l'être?
Écoutez, il y a des bonnes raisons. Donc, dans le rapport, vous avez la version livre du rapport. Et moi, j'ai la version,
pour la France, hein.
Voilà, publiée par Odile Jacob. En fait, si vous voulez, dans le rapport, il y a toute une partie sur l'impact économique. Et nous, on pense que l'intelligence artificielle a un potentiel de croissance. Parce que ça permet en particulier d'automatiser certaines tâches dans la production de biens et services, mais également ça automatise certaines tâches dans la production d'idées. Et les idées, c'est l'innovation. Et donc l'IA, l'intelligence artificielle, permet vraiment d'augmenter la croissance. Voilà, elle a un potentiel de croissance.
Ça veut dire que c'est une forme de révolution industrielle.
C'est une nouvelle révolution industrielle.
Quand
voilà,
on a inventé la vapeur, le moteur...
Voilà. Peut-être encore plus qu'avant, parce qu'on peut améliorer l'efficacité de la recherche. On peut aider les chercheurs à être encore beaucoup plus productifs, à produire beaucoup plus d'idées nouvelles.
Alors j'imagine qu'il y a quand même une partie des métiers qui vont au minimum devoir s'adapter, peut-être même disparaître. Peut-être pour le mieux, peut-être pour que d'autres puissent ensuite émerger. Mais au moment où on se parle, il va y avoir de la casse.
Alors nous, c'est d'abord ce qu'on montre quand même de manière intéressante, c'est que sur une étude, sur un échantillon de 9000 entreprises françaises, on montre que les entreprises françaises qui adoptent l'IA créent plus d'emplois globalement que les entreprises similaires qui ne l'adoptent
pas. Donc on a intérêt à l'adopter.
Donc globalement, c'est créateur d'emplois. Pourquoi? Parce que l'IA vous rend plus productif. Et donc, quand vous êtes plus productif, vous êtes plus compétitif, donc vous augmentez votre marché mondial, et donc la demande pour votre produit, et donc l'emploi.
Donc ça,
mais ça n'affecte pas tous les emplois uniformément.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire.
Il y a des emplois qui vont être menacés.
Ça, c'est une perspective. Mais ceux qui nous écoutent, qui sont, juristes, qui sont notaires, est-ce qu'il y a des métiers qui sont dans des PME, dans...
Alors chaque
comptable,
métier.
Quels sont les métiers qui peuvent aujourd'hui être menacés?
Chaque métier est un ensemble de tâches. Certaines tâches vont être automatisées, ce qui permettra de passer plus de temps sur les parties,
alors,
les tâches créatives. Mais il y a des métiers où quasiment toutes les tâches vont être supprimées. Par exemple, doubleur de film, ça va pas être facile. Certains métiers de traduction vont être plus compliqués. Donc il y aura certains métiers où des emplois sont carrément supprimés. Nous, on pense que ça correspond à peu près à 5% des emplois qui, eux, carrément, vont être menacés en tant que tels par l'IA. Et là, c'est la formation, c'est l'organisation du marché du travail, une vraie flexi-sécurité. Moi, j'aime le système danois de flexi-sécurité. Vous perdez votre emploi.
C'est quoi le système danois?
Le système danois, pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire jusqu'à un certain niveau de salaire. On vous forme et on vous permet de rebondir sur un nouvel emploi. On vous propose 2 emplois dans votre qualification. Si vous en refusez plus que 2, eh bien, les allocations
baissent. Mais vous êtes payé 90% pendant 2 ans.
Jusqu'à un certain niveau de salaire, évidemment. Voilà. Donc c'est à la fois très généreux et en même temps on vous pousse et on vous aide à trouver un nouvel emploi.
À vous reconvertir, à
réinventer. De ce type. Pardon.
Quels sont ces 5%? Quand vous dites qu'il y a 5% qui vont être supprimés, vous avez parlé là à l'instant de tous les métiers de la traduction. Quels sont ensuite les métiers qui vont être transformés, qui vont devoir s'adapter?
Je pense qu'un peu dans tous les domaines, même juristes, même certaines choses qui sont un peu rébarbatives, qui sont faites que l'IA va faire, quoi. Et l'IA vous permettra de consacrer plus de temps à des tâches non rébarbatives, voilà. Même les managers, il y a un certain nombre de tâches administratives. Eh bien, l'IA vous permettra de gagner du temps sur ces tâches-là pour vous consacrer davantage à des tâches productives. Mais par exemple, il y a des métiers de clerc de bureau, par exemple, où là beaucoup de tâches vont être remplacées. Et donc, il va falloir repenser le métier dans son ensemble.
Les métiers manuels sont évidemment les moins touchés?
Les métiers manuels ne sont pas particulièrement touchés, non.
Est-ce que quand même graphiste, on a vu beaucoup d'images, est-ce que ça, non seulement c'est un métier qui pourrait disparaître, mais surtout, est-ce qu'il faut accompagner, y compris les plus jeunes, et puis pas seulement les plus jeunes d'ailleurs, parce que nous tous, on pourrait être tout simplement victimes d'une sorte de distorsion de la réalité. Est-ce qu'il faut accompagner, apprendre? Est-ce qu'on peut d'ailleurs s'exercer à être davantage vigilant?
Oui, absolument. Je pense que en fait, il y a un effort de formation qui doit être fait. Les bons usages et les mauvais usages de l'IA, ça c'est très important.
C'est quoi les mauvais usages de l'IA?
L'IA pour, par exemple, je vous fais passer Apolline, je vous représente et je fais une Apolline virtuelle et je lui fais dire n'importe quoi, par exemple. Ça, c'est pas un bon usage de l'IA.
Oui, on est d'accord, bien d'accord, c'est un voilà. Très mauvais usage de l'IA.
Très mauvais usage de l'IA, voilà. Et donc, je pense que dès la petite école, il faut apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon et un mauvais usage de l'IA. Auprès du public, nous, on est pour des cafés IA, des grands débats IA. Il faut apprendre comment utiliser l'IA correctement. Ça, c'est un problème. Ensuite, dans les formations spécialisées à l'université, droit et IA, chimie et IA, physique et IA, à chaque fois l'IA joue un rôle différent et il faut intégrer dans chacun des programmes.
En fait, il faut que ça rentre à l'université,
évidemment, de manière adaptée à chaque métier que l'on apprend à l'université. Et puis il va falloir former des gens qui développent l'IA et des gens qui déploient l'IA dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc il y a un énorme effort de formation. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut beaucoup investir.
Beaucoup investir.
25 milliards sur 5 ans.
Beaucoup investir. 25 milliards sur 5 ans, oui. Dites-vous. Est-ce que la France aujourd'hui met suffisamment le paquet ou est-ce qu'elle est à la traîne?
Pour le moment, la France peut faire plus. Voilà, on avait mis, je sais quoi, 3 milliards
mieux,
sur 8 ans.
Le prof dirait.
Ah oui, non, et maintenant, on doit passer à 5 fois 5, le gouvernement. Je pense qu'il faut aller. Parce qu'il faut à la fois former, il faut développer des chercheurs en IA, il faut diffuser l'IA dans l'ensemble de l'économie, il faut développer une puissance de calcul. Pour faire tout ça, il faut un soutien public. Et c'est un bon investissement.
Un soutien public, mais ça c'est à la française. Quand on regarde aux États-Unis que par exemple Microsoft développe donc 4 milliards, elle va développer 4 milliards en France, mais aussi ailleurs. Ça veut dire aussi que les entreprises privées, notamment américaines, qui ont cette ampleur-là, vont mettre le paquet.
Absolument. Mais l'idée, c'est toujours d'amorcer. Vous savez, moi, je crois beaucoup, c'est comme les chemins de fer. Quand on a construit les chemins de fer en France, c'est un partenariat public-privé. L'État mettait, et puis les compagnies, les frères Perrer et d'autres. Et ça a été un partenariat public-privé. Et bien, je pense que également dans l'IA, c'est un partenariat public-privé qui va nous permettre de...
Merci, Philippe Aguillon. Voilà. On entend votre enthousiasme. Vous vous dites qu'il y a des choses à faire.
Voilà, investir et en même temps libéraliser, open source, les données libres, l'accès facile aux données de santé, par exemple. Parce que nous, on a une grande force en France. On a de très bons chercheurs et on a de très bonnes données, mais il faut aider les chercheurs à accéder aux données, parce que l'IA c'est une puissance de calcul et des données et il faut mettre en valeur les deux, donc de la concurrence, de l'ouverture et également une politique industrielle de l'IA.
Merci beaucoup Philippe Aguillon d'être venu nous expliquer tout ça dans ce studio. Votre rapport, il est effectivement publié chez Odile Jacob, ça s'appelle IA, Intelligence Artificielle, notre ambition pour la France. Il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.